Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
Bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une. Cette gifle donc qui a fait le tour du monde, le début de la campagne officielle et puis Auchan boycotté en Ukraine.
Nos deux sujets du jour, d'abord un jour une proposition jusqu'au premier tour. RTL Midi passe au crible les propositions des candidats, propositions pour la jeunesse aujourd'hui. Des jeunes plus intéressés qu'on ne le pense par la politique, c'est ce qui ressort du baromètre BVA pour RTL et Orange. Plus de 80% d'entre eux parlent de la présidentielle.
Et c'est justement notre question du jour sur RTL.fr. Parlez-vous de l'élection présidentielle avec vos enfants? C'est assez partagé, hein. Vous dites oui à 42%, non à 45%. J'imagine que ça dépend de l'âge des enfants.
Évidemment, parce que
forcément. Non, mais c'est intéressant parce que les 18-24 ans, on parle avec leur entourage.
Oui.
Et c'était pas forcément gagné. En tout cas, on ne le pense pas forcément. La météo. Avec vous, Louis Baudin. Bonjour, Louis.
Bonjour.
Bon, si j'ai bien compris, on en profite. Hein.
Ah, exactement. C'est la dernière journée avec cet air de printemps, pour ne pas dire d'été, dans la plupart des régions. Donc, encore aujourd'hui, un soleil largement dominant, même si dans l'ouest, un petit voile nuageux sera parfois un petit peu plus épais. Et d'ailleurs, en fin de journée, sur la Bretagne, nous aurons déjà les prémices de cette dégradation, avec un ciel un peu plus chargé, un peu plus menaçant, voire quelques gouttes de pluie, toujours un peu de vent d'automne sur la région toulousaine, puis avec ce soleil donc qui dominera encore, eh bien les températures vont s'envoler cet après-midi. Nous serons entre 19 et 23 degrés, quelle que soit la région, c'est largement au-dessus des moyennes de saison.
Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence donc avec cette image qui a fait le tour du monde.
Oh wow! Will Smith just smacked the shit out of
him. Cette gifle de Will Smith à l'humoriste Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, c'était la nuit dernière. Beaucoup ont d'abord cru une blague, une mise en scène, mais non, ce n'était pas du cinéma. C'est même la suite d'un vieux différend entre les deux hommes, Stéphane Boutsock.
En fait, cette histoire de baffe retentissante, c'est la blague de trop qui a fait déborder la patience de Will Smith. Depuis des années, Chris Rock, humoriste féroce réputé à la télé en stand-up, se moque des frasques de la famille Smith-Pinkett, se basant sur des rumeurs de plus en plus insistantes qui mettent en doute la réalité même du couple Jada-Will sur fond de bisexualité et de scientologie. L'acteur, lui-même, s'est récemment épanché sur les difficultés de son couple face à l'annonce d'une séparation imminente. Reste que cette nuit, Will Smith et son épouse étaient main dans la main à cette 94e cérémonie. Et c'est après avoir embrassé madame que monsieur est allé chercher son trophée. Alors d'un point de vue pénal maintenant, ni Chris Rock ni l'Académie des Oscars n'ont décidé de donner suite à cette affaire. Et le comédien, qui a autrefois campé un très crédible Mohamed Ali, ne sera donc pas inquiété pour sa grosse gifle. À voir l'année prochaine si le mot « fucking » prononcé haut et fort lui vaudra un bannissement disciplinaire de la 95e remise de prix.
Et évidemment, les explications de Stéphane Boutsock, notre monsieur cinéma ici à RTL.
Évidemment, on interrogera les auditeurs. Je ne sais pas si tout le monde a vu cette gifle. Alors d'ici les auditeurs, allez voir cette gifle et on en parle entre 13h et 14h30.
La présidentielle à présent, J-13 avant le premier tour. Et Emmanuel Macron est aujourd'hui à Dijon. Bonjour Vincent Derosier. Vous êtes sur place pour RTL. C'est le premier vrai déplacement de campagne pour le président sortant.
Bah oui, la preuve Amandine, la bienveillance est maintenant terminée. Emmanuel Macron, à peine arrivé, a cogné Éric Zemmour et fort au lendemain des Macron assassins entendus au Trocadéro. C'est une indignité, mais ce n'est pas une surprise, a dit le président candidat. Et si Éric Zemmour est malentendant, eh bien il peut avoir recours aux prothèses auditives à moindre frais. C'est une des réformes et j'en suis fier. Alors le reste de la journée ressemble bien à une journée de campagne. Déambulation dans un des quartiers de la ville pour serrer des mains et faire des selfies. Ça peut paraître anodin comme ça parce que c'est le quotidien de n'importe quel candidat. Mais c'est la première déambulation de cette étrange campagne pour lui. En fait, toute cette semaine a été pensée par ses équipes comme la vraie première semaine de campagne avec un autre déplacement jeudi et en point d'orgue le meeting dimanche à la Défense Arena. Et pour fêter ça, eh bien Emmanuel Macron a choisi de parler à sa gauche. C'est un rééquilibrage, confie un proche. Éducation, rencontre avec des associations, rénovation urbaine. Un signal envoyé à tous les électeurs de gauche déçus ou tentés par l'abstention.
Vincent Derosier en direct de Dijon pour RTL. Vincent qui évoquait à l'instant ceci. C'était hier, place du Trocadéro à Paris, ce meeting d'Éric Zemmour et ces Macron assassins qu'on a entendus. Alors l'ancien polémiste dit n'avoir rien entendu. À l'instant, Emmanuel Macron a réagi. Bonjour, oui. William Galibert.
Bonjour. Si Éric Zemmour n'a pas entendu, tout le reste de la classe politique l'a entendu. Tout le monde a entendu ses cris hier soir dans la foule au Trocadéro. Alors, l'équipe d'Éric Zemmour a bien essayé d'éteindre un petit peu l'incendie en disant « Non, on vous assure, il était à la tribune, il n'a pas bien entendu. » Mais bien sûr que lui aussi condamne tous ces propos qui ont été tenus, ce Macron assassin, au moment où Éric Zemmour évoquait les meurtres de Sarah Halimi et de Mireille Noël. Et de tous ceux, je cite, que l'État n'avait pas su protéger. L'entourage d'Éric Zemmour a tenté d'éteindre l'incendie. Ce n'est pas suffisant. C'est choquant pour le communiste Fabien Roussel. Propos haineux pour Anne Hidalgo, mais c'est le reste de la droite qui ne se fait pas prier non plus. Ce n'est pas ma droite, ce n'est pas ma France, s'est emportée Valérie Pécresse. Et là, on comprend bien que le but, c'est pas tant de voler au secours du président de la République que d'enfoncer un adversaire politique.
Essayez la campagne, là, elle a vraiment, enfin, on a presque envie de dire, commencé.
À moins de 2 semaines du premier tour, il serait temps.
Merci beaucoup, William Galibert du service politique de RTL.
Un nouveau départ de Russie, celui d'Heineken.
Le brasseur néerlandais, deuxième plus gros brasseur mondial, annonce qu'il va quitter le pays où il emploie actuellement 1800 personnes. Appel au retrait que refuse toujours d'entendre certaines enseignes françaises. C'est le cas d'Auchan, notamment, enseigne que le gouvernement ukrainien appelle à boycotter. Valentin Boisset et Alice Moreno se sont rendus dans un magasin de la banlieue de Lviv. Reportage.
Oui, des rayons vides ce matin, plus de gilets rouges du personnel que de clients. Au rayon gâteau, Marie se questionne.
En arrivant, je me disais la priorité c'est de faire mes courses. Mais en fait, les gens ont raison. Il ne faut plus venir ici. Auchan doit cesser de nourrir la Russie. Les emplois là-bas sont plus importants que les 143 enfants morts ici.
La demande de boycott vient du ministère des Affaires étrangères lui-même, qui appelle sa population à éviter les magasins, Andri, et partager.
Question économique compliquée. On ne peut pas se permettre en Ukraine de ne pas aller à Auchan. On se bat au front, il faut que l'on puisse se nourrir. On en a besoin. Dans ce quartier, c'est le seul magasin. Ce qu'il faut, c'est que les dirigeants français fassent preuve de responsabilité.
Depuis ce matin, des listes sont aussi distribuées par les Ukrainiens pour éviter un certain nombre de marques avec des produits de substitution. En plus d'Auchan, il y a dans le viseur Leroy Merlin et Danone, par exemple.
Le reportage de Valentin Boisset, Alice Moreno, les envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. Ukrainiens et Russes doivent par ailleurs, et ça c'est le volet diplomatique, se retrouver demain à Istanbul pour reprendre les négociations. Ici en France, les VTC sont dans la rue, journée de grève aujourd'hui et demain, des manifestations dans plusieurs villes de France, notamment à Paris. Ils regrettent l'absence de mesures spécifiques face à la hausse des prix du carburant. Brahim Ben Ali est secrétaire général du syndicat INVVTC.
On a la hausse du carburant, donc c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui déborde depuis très longtemps. Il faut savoir que nous, on ne bénéficie d'aucune aide à part celle qui a été annoncée dernièrement, 15 centimes. Sauf que ce n'est pas que pour notre secteur, c'est pour tout le monde. Faisons un calcul très simple aujourd'hui dans notre budget carburant. Donc on a une augmentation de 450 euros par mois. Il faut savoir que déjà, on n'atteignait même pas le SMIC. Alors vous imaginez qu'aujourd'hui, quand on parle de bénéfices, on parle de peut-être 600 à 700 euros de bénéfices. Donc c'est pas possible, c'est pas viable. Les conséquences, c'est qu'on a des chauffeurs qui déjà ont eu du mal à survivre avec la période de la Covid-19 et qui finalement ont cessé leur activité, d'autres qui sont pris à la gorge par leurs créanciers. Donc aujourd'hui, c'est de se dire que vont faire ces candidats à l'élection présidentielle.
La colère des VTC au micro RTL d'Arnaud Touche. Cette deuxième nuit de violence à Sevran après la mort d'un homme de 32 ans tué samedi par un tir policier. Nerissa Emani, vous êtes sur place pour RTL. Plusieurs véhicules ont été incendiés.
Oui, dans le quartier des Baudottes, au pied des tours, une dizaine de carcasses de voitures calcinées, un poids lourd à moitié brûlé, résultat d'une nuit d'affrontement entre groupes de jeunes et forces de l'ordre dont les habitants peinent à se remettre ce matin.
Bah nous, on a entendu les explosions hein.
Dans le quartier. C'est l'euphorie, quoi. Ils brûlent tout. C'est comme un rituel par ici. On est dans le quartier, on a un certain âge où on ne peut plus partir. On va plus partir dans notre quartier maintenant. Ça incite pas aux gens de rester. Hein.
Alors c'est la mort d'un père de famille de 32 ans, connu dans le quartier, qui a mis le feu aux poudres. Arrêté samedi au volant d'un camion volé, il a été mortellement blessé par le tir d'un policier. S'en est suivi 2 nuits de violence. 10 personnes ont été interpellées hier, mais c'est insuffisant pour cette habitante.
Ça se dégrade de plus en plus. Et puis moi qui suis née à Sevran, je trouve que ce que c'est de pire en pire. Je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez d'interpellations au niveau de tout ce qui se passe dans Sevran. Il y a peut-être qu'on ne fait pas le nécessaire.
Les affrontements se sont étendus hier soir à la ville voisine d'Aulnay-sous-Bois où un bus a été volé et brûlé. Les habitants craignent ce soir une troisième nuit de violence et d'affrontements.
Nerissa Emani en direct de Sevran pour RTL. Et puis Pascal, vous vous souvenez sans doute de ces nuages de sable venus du Sahara. Vous l'avez pas volé.
J'ai volé ma voiture.
Non,
c'est un truc que je
vous
fais.
Vous l'avez lavé ou pas depuis?
Eh bien, figurez-vous que je l'ai lavé, mais ce week-end.
Ah,
et ça
mais
a
vous
duré
auriez peut-être
10
pas
jours.
Dû. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'ils reviennent, ces nuages du Sahara,
ah bon,
Louis Baudin. Ça va être moins net quand même qu'il y a 15 jours.
J'ai volé une autre voiture, en tout cas.
<C'est ça. rire> Ma langue a fourché.
Effectivement, oui, oui, ça recommence. Hein. On a déjà les signes d'ailleurs de cette remontée du sable sur l'Espagne, où on voit déjà ces cieux complètement jaunes. Donc ça va remonter au cours des 24 prochaines heures sur la France. Alors ça ne se verra pas forcément autant qu'il y a un peu plus de jours. Mais comme à partir de demain, la pluie va revenir, cette pluie va avoir tendance à coaguler ce sable. Et donc
là,
on va de nouveau
retrouver, de nouveau,
quand ces pluies vont arriver au sol, retrouver ce sable, hein, ces grains de sable sur les voitures et un peu sur les montagnes. Ça sera quand même moins dense
sur les montagnes
qu'il y a 10 jours.
Oui, mais oui, il y avait dans la neige, ça avait été coloré. Vous n'avez pas vu ces images?
Bien sûr,
c'était
bien
magnifique.
J'ai tout vu. Louis Baudin qui est avec nous, il fait 23 aujourd'hui à Paris, il fait moins 8 paraît-il ce week-end. C'est vrai,
non, il fait pas moins 8.
On m'a dit qu'il allait neiger à Paris ce week-end. C'est vrai?
Pas à Paris, mais c'est vrai qu'on va retrouver de la neige en plaine probablement à partir de vendredi prochain.
Il n'y a plus de saison.
Il n'y a plus de saison, ma pauvre.
Exactement. Notre premier focus dans une seconde, une proposition par jour jusqu'au premier tour. RTL Midi passe au crible les propositions des candidats et aujourd'hui c'est la jeunesse. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
12h44 sur RTL et nous sommes donc à 13 jours du premier tour de la présidentielle. Tous les jours jusqu'au scrutin, on a décidé dans RTL Midi de passer au crible les propositions des candidats. Un jour, une proposition, c'est votre rendez-vous présidentiel de la mi-journée sur RTL. Première mesure, elle concerne les jeunes. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
On va s'arrêter sur ce revenu jeune imaginé par Jean-Luc Mélenchon.
Moi, ma solution, c'est 1063 euros pour tous ceux qui sont en fac, mais qui sont autonomes de leurs parents, hein, s'il vous plaît. Ce serait quand même pas... bon, faut pas exagérer non plus. Donc, ceux qui sont autonomes de leurs parents, et ça, je le vois tout de suite, parce que si les parents les déclarent sur leur formulaire d'impôt, ouallou, il n'y a pas de 1063 euros pour eux. Mais pour les autres, oui.
Un revenu, donc, de 1063 euros, Anaïs.
Ouallou.
C'est quand même le mot important.
Pour ceux qui ne sont pas aidés par leurs parents, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça. Le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est de lutter donc contre la précarité jeune, d'où le fait de mettre en place ce revenu qu'il appelle garantie d'autonomie. Revenu donc de 1063 euros. Alors vous allez vous me dire pourquoi 1063 euros ? Tout simplement parce que c'est le seuil de pauvreté. 60% du revenu médian de la population. Vous l'avez entendu, ce ne sera pas 1000 euros pour tous les jeunes, ce sera une aide pour les étudiants en fac, en lycée professionnel, qui seront autonomes, qui ne seront pas déclarés sur les impôts de leurs parents, sinon effectivement, walou.
Et tous les candidats ont des propositions à peu près similaires ?
Oui, c'est vrai, de gauche à droite. Hein. Tout le monde a sa proposition pour les jeunes. Chacun son revenu, chacun son financement. Fabien Roussel propose un revenu étudiant entre 850 et 1000 euros par mois. Il dit, je cite, « Même les enfants de Bernard Arnault y auront droit. Financement en partie par de nouvelles cotisations, en partie par l'État. » Yannick Jadot, lui, il veut un revenu citoyen autour de 900 euros. Anne Hidalgo veut un minimum jeunesse, 564 euros par mois. Vous voyez, ils se sont tous creusé la tête sur les noms. Hein. Mention spéciale à Philippe Poutou pour le nom de son revenu jeune. Il propose un pré-salaire d'autonomie, un pré-salaire pour tous les jeunes âgés de 18 à 25 ans, un revenu carrément au niveau du SMIC, sachant que le SMIC de Philippe Poutou serait à 1700 euros, donc là c'est jackpot. À droite, on est plutôt sur le revenu jeune actif, avec le mot actif chez les Républicains, pour montrer qu'on pousse à travailler. 670 euros par mois pour Valérie Pécresse. Emmanuel Macron poursuivrait son contrat d'engagement jeune, une aide financière contre une activité. La candidate du Rassemblement National aussi planche pour une enveloppe financière pour démarrer dans la vie. Parmi ces 8 propositions pour les jeunes, il y a donc un soutien aux étudiants.
Pour les étudiants qui sont à la faculté, par exemple, ou d'autres, je leur propose une prime de l'État lorsqu'ils travaillent pendant leurs études, une prime de 20% de leur salaire jusqu'à 200 euros et 30% jusqu'à 300 euros pour les boursiers.
On vous a bien compris.
Ce sont des aides importantes parce que moi, je crois dans la jeunesse française. Il est là le sursaut de dynamisme dont nous avons besoin pour notre économie.
Alors, on poursuit l'échiquier politique avec deux exceptions. Jean Lassalle, lui, il serait plutôt, non pas pour un revenu mensuel, mais pour un prêt aux étudiants. 20 000 euros à taux zéro, mais à rembourser quand même. C'est moins généreux. Et Éric Zemmour, pas de revenu dédié aux jeunes, hein, qui serait plutôt, je cite, comme le RSA, une serpillière sociale.
Il n'y a aucune sélection pour s'inscrire en fac, on le rappelle. Donc on peut s'inscrire à partir du moment où on a le bac, c'est généralement la règle. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir contrôler tous les jeunes de 18 à 25 ans, parce que on est jeune de 18 à 25 ans, qui pourraient s'inscrire en première année, n'y aller jamais, se réinscrire en première année et n'y aller pas toujours. Et le contrôle me paraît important, mais qui aimerait toucher les 1063 euros. Comment vous faites pour contrôler ?
Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, là.
Oui, mais ouais. Comment vous faites pour contrôler ? Vous
inscription
inscrivez en fac
à l'inscription en fac.
Oui, l'inscription. Mais
alors, vous voyez que les jeunes vont s'amuser à s'inscrire tous les ans en première année.
Quand on te donne 1063 euros, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont réfléchir, oui. À s'inscrire chaque année et pas forcément aller en fac. Ça, je pense que c'est une somme importante.
Pensé, alors, non seulement il y a l'inscription en fac, il y a l'inscription en lycée professionnel, il y a quand même
lycée professionnel, présent. C'est plus facile. Mais
c'est
l'inscription
la même chose,
en
il y a une
fac.
Présence qui est demandée. Quoi,
en fac, vous faites comment pour vérifier des gens qui sont dans un amphi?
Quelqu'un qui ne participe pas,
qui passe pas les examens,
à ses examens,
qui
ne passe
pas les partis. Oui, puis c'est pas tous. Voir, merci. Il s'intéresse aussi à la politique.
Excusez-moi d'avoir l'esprit mal placé. Vous avez raison. Me rends. Vous êtes trois, la majorité a toujours raison.
Jeunesse. Juste d'un mot, Anaïs. C'est une demande, ça, plus de pouvoir d'achat de la part des jeunes.
Oui, bien sûr. C'est une demande qui existe à chaque quinquennat, mais qui est encore plus présente. On le ressent aujourd'hui avec tout ce qui est inflation. En ce moment, c'est vraiment très présent. D'ailleurs, Nerissa Emani a interviewé une étudiante qui s'appelle Éline. Écoutez-la.
Ce qu'on aimerait, c'est un salaire étudiant parce que l'échelon 0 bis pour les bourses CROUS, c'est 107 euros par mois. Et donc, on attend de nous qu'on puisse se nourrir et se loger avec aussi peu d'argent. Les études, ça ne devrait pas être une tare ou un problème. Devoir sacrifier une partie de sa vie pour faire quelque chose qui nous intéresse, ça ne devrait pas être normal.
Voilà, et puis il y a beaucoup de candidats qui proposent aussi de revoir ce système des bourses, de toute façon, qui ne paraît pas toujours très adapté.
Il est 12h49,
merci.
Chacun
Anaïs.
Aura son avis sur cette situation. Qu'est-ce qu'il vaut mieux pour une jeunesse? Qu'elle se débrouille toute seule et qu'elle trouve des petits boulots parce qu'elle se forme à ce que sera la vie plus tard?
Mais elle n'est pas toujours se concentrer sur lui pendant le Covid.
Attendez, je ne donne pas mon avis. Ou au contraire, lui permettre d'avoir 1063. Ça, c'est une bonne question pour les auditeurs. Parce qu'on est tous passés par des études. Et parfois, ça a été compliqué.
Et parfois, on n'avait pas toujours les parents derrière.
Exactement, et même souvent la majorité. 12h50, à tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Et à 12h52, on évoque à nouveau cette présidentielle. Premier tour, on le rappelle, dans 13 jours, moins de deux semaines. Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL, est toujours avec nous. Adélaïde Zulfi-Karpazic, bonjour Adélaïde.
Bonjour.
Directrice du département opinion de BVA avec nous également. On souhaitait revenir sur ce nouveau baromètre, Adélaïde, qui concerne plus particulièrement les jeunes. Quand on parle jeunes et politique, on a toujours l'impression que ça ne les intéresse pas. Souvent, en tout cas, croit-on. Notre baromètre dit le contraire, Adélaïde.
Oui, c'est effectivement plus compliqué que ça, puisque près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans déclarent s'intéresser à la politique. Donc, c'est pas si négligeable au regard du portrait qu'on dresse parfois de ces générations. Vous venez de le rappeler. Les jeunes échangent régulièrement des informations sur la campagne présidentielle autour d'eux. 8 sur 10 déclarent en parler avec leur entourage. C'est beaucoup. Donc, on aurait tort de dire que l'élection présidentielle n'intéresse pas les jeunes. Au contraire, et ils sont d'ailleurs les trois quarts des jeunes inscrits à dire s'y intéresser. C'est un niveau similaire à celui qu'on mesure pour l'ensemble des Français.
Alors, petite précision, hein, quand on parle de jeunes, c'est 18-24 ans. Comment s'informe-t-il, Benjamin ?
Eh bien, ils s'informent par les réseaux sociaux, bien sûr. Hein. Alors, mais pas que, aussi par les médias traditionnels, dont la télévision, vous voyez. Donc c'est un mix. Et c'est ça qui est intéressant chez les jeunes, finalement, c'est qu'ils ont des canaux d'information très différents, et également aussi par des échanges entre eux. Et vous avez des programmes sur les réseaux sociaux, comme Hugo Décrypte, par exemple, qui fonctionnent très bien. Je regardais là le nombre de vues, 350 000, vous voyez, et 1,5 million d'abonnés.
Alors, donc, on ils explique ont... pour nos auditeurs qui ne connaissent pas
alors,
forcément.
Alors, Hugo Décrypte, c'est un jeune journaliste bien, qui a sa manière à lui d'informer, assez pédagogique et qui s'adresse directement aux jeunes, et c'est uniquement sur YouTube et sur sa chaîne YouTube. Donc ils sont sur les médias traditionnels, notamment la télévision et la radio, et aussi sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, il y a une vraie un appétit aussi pour la politique, et ils sont loin d'être décérébrés, nos jeunes, hein, ça on s'en rend bien compte.
Et les candidats s'adaptent ?
Et les candidats s'adaptent difficilement, vous avez raison. C'est-à-dire, ils vont dans les formats qui leur sont donnés, mais instinctivement, c'est vrai que quand on voit ce qu'ils font sur leur production propre, c'est pas toujours adapté, il n'y a pas des formats adaptés pour les jeunes. Et je pense que là, c'est une vraie lacune. C'est vrai qu'on n'a pas vu de message dédié uniquement aux jeunes. En même temps, je regardais l'âge moyen des candidats. Vous savez combien c'est l'âge moyen des candidats, Pascal ?
Cette année, c'est plutôt jeune.
Ah ben, bon, c'est 57 ans. Je ne dis pas que c'est vieux, mais c'est 57 ans. Le plus jeune, c'est Emmanuel Macron à 44 ans.
Oui, mais c'est beaucoup plus jeune que jadis. Si vous faites la campagne de 80,
oui, mais vous savez très bien qu'un jeune de 18-24 ans, il n'a pas les mêmes aspirations que quelqu'un qui a une moyenne de 57 ans. Je ne dis pas, encore une fois, heureusement, à 57 ans, on est loin d'être un senior. Mais tout de même, c'est là où vous voyez aussi qu'il y a une forme d'identification plus difficile avec des candidats à l'élection présidentielle.
Adélaïde, ils sont intéressés, mais ils votent moins, les jeunes. C'est toujours une réalité, ça.
C'est toujours une réalité qui est en partie la résultante de ce que vient d'évoquer Benjamin, la difficulté des jeunes à se projeter, se reconnaître notamment dans les candidats, parce qu'effectivement, d'une part, ils sont moins inscrits sur la liste électorale que la moyenne des Français, c'est comme la condition indispensable pour pouvoir voter. Ils sont 15% chez les jeunes de 18 à 24 ans à déclarer ne pas être inscrits, c'est 7% seulement pour la moyenne des Français. Et par ailleurs, effectivement, vous venez de le dire Amandine, ils ont moins l'intention d'aller voter le 10 avril, 64% seulement des 18 à 24 ans, c'est un niveau qui est inférieur de 10 points environ à ce qu'on mesure aujourd'hui pour la moyenne des Français. Alors, ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas en 2017. Ils ont été 28% à s'abstenir contre 22% en moyenne. Et de manière générale, on sait que les jeunes votent moins que les Français. Mais ça implique effectivement une réflexion sur comment est-ce qu'on renoue le lien entre les Français et la politique, les jeunes et la politique. Est-ce que c'est par les conditions du vote, la représentation ? Ça pose question.
Ce qui m'a frappé, moi, c'est que l'ordre pour les jeunes est quasiment le même que pour le reste de la population. C'est-à-dire que c'est d'abord Macron, c'est Marine Le Pen, c'est Éric Zemmour et c'est Mélenchon. C'est le même quatuor. Ça m'a frappé. Et je pensais également que l'écologie serait un thème pour les jeunes beaucoup plus important qu'il ne l'est en réalité dans ces sondages. Comment vous expliquez ça ?
Alors, c'est un thème quand même en termes de préoccupation, puisqu'il le positionne en deuxième sujet qui va venir motiver leur vote.
Oui, mais Jadot, visiblement, c'est pas leur truc, si j'ose dire.
Alors, Jadot, il fait quand même 10% chez les jeunes. C'est quand même quasiment le double de chez l'ensemble des Français. Mais c'est vrai que ça interpelle que ça soit pas... Ça montre aussi que, justement, peut-être que dans leur esprit, l'écologie... puisque justement c'est le deuxième sujet de préoccupation des jeunes, c'est vraiment quelque chose qui les motive beaucoup, ça doit être un sujet global, transpartisan, transcatégoriel et pas seulement porté par un candidat. Donc peut-être qu'il y a de ça, et peut-être aussi, malheureusement c'est la deuxième clé de lecture qui est moins optimiste, que chez les jeunes comme chez l'ensemble des Français, il y a certes une prise de conscience aiguë de l'enjeu environnemental, mais qu'elle se traduit pas derrière en action concrète, et il y a encore un hiatus entre ok, je suis conscient qu'il y a un sujet, mais derrière je vais jusqu'à carrément l'investir dans mon vote.
Merci Adélaïde, merci beaucoup pour ces renseignements. On est à 13 jours de la présidentielle.
Début de la campagne officielle.
Oui, la campagne officielle à partir d'aujourd'hui, ils m'y mettent dans le temps, mais on voit que ça commence réellement. Vous avez vu les propos d'Emmanuel Macron à l'endroit d'Éric Zemmour qu'on va réentendre.
Et c'est pourquoi d'ailleurs vous resterez quelques minutes.
Vous avez gagné votre ticket, Benjamin.
Non mais oui, c'est pas rien quand même, Macron assassin, c'est pas rien. Il faut l'expertiser, et qui mieux que vous et le service politique d'RTL en général peut expertiser cela.
Avec vous, bien sûr.
Cher ami, vous avez mis une écharpe, vous avez un peu... Qu'est-ce que ça va être en fin de semaine quand la neige va arriver?
Ben voilà, arrêtez, c'est pas ça, de neige.
Je protège ma voix.
Il est 12h58, à tout de suite.
RTL Midi.
RTL. Il est 13h.
Jusqu'à jusqu'à 14h30,
les électeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Je précise que nous sommes désormais en temps de parole. Donc dès qu'on prononcera le nom d'un candidat, je prononcerai tout de suite derrière les 11 autres. Ah non, c'est la règle.
C'est vrai ?
Bien sûr, c'est la règle. Donc Pierre-Antoine, donc on va être assez général pour commencer. Jeune et politique. Pierre-Antoine, bonjour, vous avez 3 heures.
Bonjour Pascal.
Jeune et politique.
C'est ça.
Quel âge vous avez ?